Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Ciel et Espace. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le système fabuleux de la planète Saturne en compagnie de Sébastien Charnoz.
Bonjour.
Bonjour Sébastien. Alors
bonjour.
Sébastien, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot et également enseignant-chercheur au Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Alors, on vous a invité parce que cet été, vous avez publié, vous et des collaborateurs, une étude sur l'origine des petits satellites que l'on trouve au bord des anneaux. Alors ces petits satellites, ils ont des noms assez poétiques, Atlas, Pandore, Janus, Prométhée, Épiméthée, et il paraît, selon cette étude, qu'ils seraient nés des anneaux. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces satellites, leur taille, où est-ce qu'ils sont situés, et comment diable est-ce que des petits satellites peuvent avoir été engendrés par des anneaux?
Alors, ces petits satellites, donc ils sont au nombre de... Alors, je n'ai jamais le chiffre exact en tête, c'est à peu près 5-6. Donc, on a Atlas, Pandore, Prométhée, Janus et Épiméthée. Ce sont des petits satellites. Alors, on les appelle petits parce que leur taille est typiquement entre 20 et 100 km de diamètre. Et c'est sûr que pour des satellites dans le système solaire, ça les classe parmi les tout petits satellites. Ils sont assez remarquables parce que, premièrement, ils ont des formes très irrégulières. Ils sont pas ronds. Ils ressemblent plutôt à des cacahuètes. Ils sont très allongés. D'ailleurs, dans les photos Cassini, c'est toujours assez étonnant de voir ces formes allongées. On dirait des gros cigares qui tournent autour de Saturne. Et ils ont été détectés la première fois par les sondes Voyager qui sont passées au voisinage de Saturne au début des années 80. Alors, ils se trouvent dans une région très particulière, c'est qu'ils se trouvent juste à l'extérieur des anneaux de Saturne. Alors, pour vous donner des chiffres, le rayon de la planète Saturne, c'est 60 000 km. Les anneaux principaux de Saturne, les grands anneaux denses qu'on connaît tous, s'étendent jusqu'à 140 000 km, donc à peu près un peu plus de deux rayons saturniens. Et entre 140 et 160 000 km, donc vraiment dans une petite bande juste au bord des anneaux Saturne, il y a toute cette population de petits satellites et qui ont ces caractéristiques assez étonnantes. Et d'ailleurs, une caractéristique, une des plus étonnantes qui a été mesurée plus précisément par Cassini, c'est que ce sont des satellites particulièrement peu denses. Ils sont beaucoup moins denses que l'eau. Entre guillemets, si on les mettait sur l'océan, ils flotteraient. Et voilà, donc cette propriété un petit peu étonnante, leur forme, le fait qu'ils soient beaucoup moins denses que l'eau, le fait qu'ils soient si proches des anneaux, on pourra en revenir parce que ça pose des problèmes. Et en gros, toutes ces propriétés physiques et dynamiques.
C'est ça qui vous a mis sur la piste.
Disons que font que c'est des satellites qui sont quand même très particuliers. Alors, pourquoi ils suscitent des questions? Alors, il y a la question de la densité dont j'ai parlé. Il y a aussi le fait qu'ils sont si proches des anneaux qu'ils interagissent via la gravité très fortement avec les anneaux. Alors, des calculs assez compliqués montrent qu'ils devraient s'éloigner des anneaux, doubler leur distance aux anneaux toutes les 10 millions d'années.
Or, ils ne s'éloignent pas. Ils restent...
Alors, ils s'éloignent peut-être, mais comme on sait que le système solaire a beaucoup plus que 10 millions d'années, le système solaire a a priori 4 milliards et demi d'années, donc ça veut dire que s'ils étaient nés au moment de la formation des planètes, ce qui a priori est l'hypothèse la plus simple.
Donc en même temps que Saturne, il y a 4,5 milliards d'années.
Et bien en fait, ils devraient être peut-être 500 fois plus loin qu'ils ne sont aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc il y a un vrai problème, comment ils ont pu se former là, comment se fait-il qu'ils soient aussi peu denses, et aussi comment se fait-il qu'ils aient aussi peu de cratères. Quand on compte les cratères à leur surface, on voit qu'ils ont très peu de cratères par rapport aux autres satellites.
Et pourquoi du coup, est-ce que c'est un signe de jeunesse?
Parce que tout simplement, la surface d'un satellite, c'est comme une bande enregistreuse, si vous voulez. C'est-à-dire que... Au cours des siècles, au cours des millénaires, le bombardement météoritique, on a toujours des petites météorites qui se baladent dans le système solaire, creuse des cratères régulièrement. Donc, plus une surface est vieille, plus elle contient de cratères, plus une face est jeune.
Plus elle est lisse.
Voilà, plus elle est lisse. Mmh. Et même au point où le comptage de cratères est une technique de datation des surfaces.
D'accord.
Voilà. Et au vu des surfaces extrêmement peu cratérisées des petits satellites, eh bien, il semblerait que ces satellites soient jeunes. Donc là, il y a un mystère. Comment expliquer la jeunesse de ces satellites, l'apparente jeunesse, je dirais, de ces satellites. Voilà, et c'est à cette question que nous avons essayé de répondre. Voilà.
Alors du coup, vous avez eu tous ces éléments-là qui vous ont posé question sur ces satellites. Mm. Quelle a été la suite de l'enquête ? Qu'est-ce que vous avez fait pour... Alors,
en fait, il y a un faisceau de... Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillé en me disant « Ah mon Dieu, mais j'ai trouvé une
c'est
idée
bien
pour,
sûr.
Les... pour les former. Voilà. » En fait, il y a eu un faisceau, on va dire, d'idées, un faisceau d'observations un petit peu convergentes. Premièrement, au début, je n'ai pas compris que c'était relié, mais ça s'est apparu plus tard, en fait, une clé de la compréhension du mécanisme. Il s'avère que dans cette région des petits satellites, il y a un annelet très caractéristique qui s'appelle l'anneau F. Alors, F, tout simplement, parce que...
Donc, il y a plusieurs anneaux, en fait, il faut peut-être rappeler autour de Saturne.
Oui, voilà. Donc, les anneaux principaux, ceux qu'on connaît bien, les très brillants... Ce sont les anneaux A, B et C, et avec au milieu la division Cassini.
Voilà. C'est une sorte de trou.
Alors la division, la division Cassini, qui est une sorte d'ouverture. Dans les anneaux. Alors les anneaux de Saturne, rapidement, ce sont des blocs de glace qui font entre 1 cm et 10 mètres, qui orbitent, qui tournent autour de Saturne, dans un disque très très fin, qui fait environ une dizaine de mètres d'épaisseur. Pour 280 000 km de diamètre. Donc
oui, c'est effectivement très fin.
C'est fabuleusement fin. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus fin qu'une feuille de papier, comparativement,
oui,
bien sûr.
Voilà,
et donc, nos fameux satellites orbitent juste à l'extérieur de ces anneaux. Mais il n'y a pas que les anneaux principaux. À l'extérieur de ces anneaux, il y a des anneaux moins connus, moins célèbres, plus fins, plus diffus, mais qui existent quand même et dont le rôle a une certaine signification. En particulier, donc, il y a cet annelet très fin qui s'appelle l'anneau F qui orbite juste à l'extérieur, un peu à la manière d'un lacet qui entoure les anneaux de Saturne. Cet anneau F qui orbite juste à l'extérieur des anneaux. Et cet anneau F, qui a été découvert par les sondes Pioneer dans les années 70...
Bien après la découverte des anneaux...
Ah oui, parce que les anneaux eux-mêmes ont été découverts en 1610 par Galilée lui-même. Donc les sondes Pioneer ont observé donc, cet annelet fin et il est très intéressant parce que c'est un anneau qui est très irrégulier. Il a globalement une forme circulaire, mais quand on zoome dessus, on s'aperçoit qu'il est très torturé. Il y a l'air d'avoir des grumeaux,
des vagues,
des entrelacs, des choses comme ça. Et voilà. Bon. Cet anneau a été réobservé récemment par la sonde Cassini à très haute résolution, et on a trouvé que dans ces anneaux, il y avait des espèces de petits grumeaux qu'on a appelés des lunes éphémères, des espèces d'objets qui font moins d'un kilomètre, qui semblent tourner autour de Saturne pendant quelques jours, et ensuite qui semblent disparaître. Et ensuite semblerait apparaître, et ensuite redisparaître.
Toujours dans l'anneau F, c'est-à-dire que c'est une formation
au voisinage
de petits
grumeaux. Voilà, une sorte de cohorte de petits satellites. On ne sait même pas si c'est vraiment des satellites. On voit des espèces de grumeaux kilométriques un peu allongés et qui semblent être là pendant quelques orbites puis disparaître. Alors, on leur a donné un nom. On a appelé ça les lunes éphémères, quoi, parce que
c'est joli, c'est poétique.
L'idée, c'est qu'on a l'impression qu'on est des espèces d'agrégats qui se forment, qui se détruisent, qui se reforment. Bon, premièrement. Donc ça veut dire qu'il y a des processus de formation, c'est ça. Enfin, si vous tirez le raisonnement jusqu'au bout, si vous avez des agrégats qui apparaissent et qui disparaissent, donc il y a bien un mécanisme de formation.
C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de formation dans l'anneau F qu'il n'y a pas dans les anneaux qui sont plus proches.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'anneau F, on voit quelque chose. Dans les anneaux, on n'a pas l'air de le voir, voilà. Enfin, voilà, on n'a pas l'air de le voir. En tout cas, pas de manière aussi claire, ça c'est sûr, premièrement. Deuxièmement... En relisant mes livres d'astrophysique et en revenant à la théorie aux cours fondamentaux sur les disques, eh bien, y a un résultat qui est très connu sur les disques en astrophysique, donc qui est aussi bien valable pour les anneaux de Saturne que pour les disques d'accrétion autour des trous noirs. Ou pour que
les disques, ce sont des sortes d'agrégats de matière qui forment
une galette autour d'un objet central,
comme par une étoile
exemple,
ou une planète.
Tout à fait, une étoile, une planète ou un trou noir, par exemple. Voilà. Eh bien, c'est que les disques ont cette propriété physique intrinsèque, c'est qu'un disque, comme une pâte à crêpes, s'étale naturellement.
D'accord.
Ça, c'est
avec le temps.
Avec le temps, tout à fait. Au cours du temps, le disque s'étale. Donc, c'est-à-dire qu'il s'étale non seulement vers l'extérieur, et puis il plonge aussi en même temps vers l'intérieur.
D'accord.
Ça, c'est un effet physique qui est dû à une propriété de la matière qu'on appelle la viscosité. Donc, il y a des fluides plus ou moins visqueux. Et les anneaux de Saturne ne sont pas vraiment un fluide puisque c'est des grains de glace, mais en première approximation, ils peuvent être un peu décrits
comme...
Voilà, tout à fait, comme un fluide.
D'accord.
Alors, donc, en reprenant ça, je me suis dit, les anneaux de Saturne, ils n'ont pas de raison de pas s'étaler puisqu'ils sont censés obéir à cette loi
en
de la
physique.
Eh bien, j'ai essayé de m'imaginer qu'est-ce qui se passerait si les anneaux de Saturne s'étalaient. Eh bien là, je fais appel à un autre concept de physique. Les anneaux de Saturne, c'est un disque qui sont très particuliers. C'est un disque très particulier parce que son bord externe correspond à une région physique théorique qu'on appelle la limite de Roche. Alors, La limite de Roche, c'est une frontière imaginaire dont on peut calculer la distance à Saturne. Donc, c'est une frontière circulaire qui entoure Saturne, qui se trouve à peu près à 138 000 km, quand on fait le calcul proprement. On donne ça en exercice aux étudiants. Mmh. Et quelle est la signification de cette limite? Eh bien, voilà, c'est la limite en dessous de laquelle les forces de marée, les forces de gravité de la planète, la force de marée est tellement forte que les satellites, a priori, devraient se détruire.
D'accord, donc c'est pour ça, on peut imaginer que c'est pour ça qu'on a des anneaux, un satellite ne s'est pas formé, parce qu'on est dans la limite de Roche, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça, c'est l'idée qu'on a depuis à peu près un siècle, c'est que pourquoi y a-t-il des anneaux de Saturne ? C'est que les anneaux de Saturne sont en dessous de la limite de Roche, ce qui signifie que rien ne peut s'assembler pour former un satellite, donc total, ça reste à l'état de tas de sable, donc les anneaux de Saturne, enfin de cailloux. Donc les anneaux de Saturne, bon. Alors maintenant, imaginons, nous avons un disque qui s'étale comme tout disque et qui traverse la limite de Roche. Une fois qu'il traverse la limite de Roche, plus rien ne l'empêche, a priori, de s'assembler sous forme de satellite. D'où ce raisonnement simple, en fait, en réalité, hein, qui est que si vraiment je reste fidèle à ce que me disent, semble dire les lois de la physique, c'est que les anneaux de Saturne devraient s'étaler, le matériau traverse la limite de Roche, une fois qu'il a traversé la limite de Roche, les forces de marée deviennent faibles, et le matériau devrait spontanément s'assembler pour former des satellites.
D'accord, donc au bout d'une certaine distance à la planète, on pourrait imaginer la création de petites lunes, justement.
Voilà, et... Alors, ça paraît une idée simple. Alors, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Je sais pas, mais peut-être parce que on avait l'impression que les anneaux de Saturne étaient verrouillés. Alors, ce qui est pas entièrement faux, on pourrait en revenir. Mais je dirais vraiment ce qui moi et les gens avec qui j'ai travaillé nous a mis sur la piste, c'est cette observation que dans l'anneau F de Saturne, qui est juste après la limite de Roche, il y a ces petites lunes éphémères.
Oui, c'est l'observation qui colle vraiment avec la théorie pour le coup.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, je dis on s'est dit, et si au fond c'était une bonne explication, peut-être qu'on peut créer ces petites lunes éphémères, mais ensuite après on a poussé le raisonnement jusqu'au bout. Ces petites lunes, elles font 1 km, mais juste à côté de ces petites lunes et un peu plus loin, ces micro-lunes éphémères, elles font 1 km, mais juste à côté il y a les lunes irrégulières, les petites lunes. Il y a Pan qui doit faire 50 km, il y a Janus qui doit faire 90 km,
donc plus gros que ces lunes éphémères.
Voilà, il y a Atlas qui fait 30 km, donc on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas être le même processus ? Alors, c'était un peu ça l'idée. Et la question, en fait, tout le défi, c'était de le prouver. Parce qu'il ne suffit pas d'assembler 3 idées en disant, on a ça, peut-être qu'on pourrait obtenir ça. Après, il fallait vraiment prouver de manière convaincante que c'était ça bien le bon processus.
Et c'est quoi qu'est-ce que ça peut être la méthode pour prouver que les satellites ont été engendrés ?
La méthode qu'on a essayé qu'on a mise au point, qui était l'objet de la publication, c'était d'essayer de simuler dans l'ordinateur l'étalement des anneaux, la formation des lunes, et de voir si à la fin, on obtient bien les lunes actuelles. Donc, c'est-à-dire les lunes actuelles, ça veut dire est-ce qu'on a des lunes qui ont la bonne masse, la bonne taille et qui sont implantées à la bonne distance de Saturne. Voilà.
Une simulation numérique, on peut peut-être expliquer en deux mots. C'est donc on a des ordinateurs assez puissants qui font des calculs rapides. On met des critères de base et ça tourne.
Alors effectivement, ça tourne. alors en fait, en l'occurrence ici, on n'a pas besoin d'un ordinateur très puissant parce que le problème n'était pas un problème de puissance de calcul, c'était juste la rapidité d'un microprocesseur. Enfin, alors, globalement, l'idée, c'est la suivante. C'est que la difficulté du problème, c'est que on a affaire à un système avec deux trucs complètement différents. On a d'un côté les anneaux qui se comportent comme des fluides, et d'un côté des satellites qui se comportent comme des points de masse.
D'accord.
Et le problème, c'est que la manière dont la physique décrit les fluides n'est pas la même dans la manière dont la physique décrit les points de masse. Et nous, toute la difficulté, c'était de trouver une méthode, d'avoir une sorte de description générale qui puisse traiter aussi bien les deux. Donc on a développé on s'est inspiré de travaux qui ont été faits en formation planétaire. Donc là, on a un peu puisé dans d'autres champs disciplinaires. Donc ça a été une approche multidisciplinaire. On a fait une simulation hybride où on avait une simulation numérique qui était capable de simuler un fluide pour traiter les anneaux, une simulation qu'on appelle NCORE, bon, un peu simplifiée pour traiter les satellites. Et ensuite, nous, on a fait tout le travail de faire les liens mathématiques entre les deux descriptions. Voilà, ça nous a pris presque... En fait, ça nous a pris... Rien que d'écrire ce code, enfin, ce logiciel, hein, ça nous a pris un an. Un an plein de travail.
C'était la base, il fallait faire ça,
Voilà, un an plein de travail, on était à deux dessus. Voilà.
D'accord.
Donc après un an de tests, de désespoir, parce qu'il y a des moments où on se disait que ça marchait pas. Après on a dit on simplifie le problème, on est arrivé à une description unifiée, et qui s'avère en fait marcher très bien sur un ordinateur portable, tout ce qu'il y a de... On n'a pas besoin d'une grande puissance de calcul.
Donc ça veut dire qu'en fait, dans cet ordinateur qui simule, vous mettez des critères de base, par exemple, voilà, on a des telle distance de la planète.
Alors on imagine que les anneaux de Saturne, on va les décrire comme une sorte de disque de matière. Donc on dit voilà la masse des anneaux de Saturne, voilà la distance à Saturne, et on commence la simulation en disant voilà, les anneaux s'étalent avec les lois fluides, avec les lois de la viscosité. Donc notre simulation numérique fait évoluer les mathématiques.
Donc on voit le disque.
On voit le disque s'étaler. Et puis maintenant, quand le matériau traverse la limite de Roche, là on applique d'autres lois mathématiques. On dit ah là là, ce matériau a traversé la limite de Roche. Donc
que se passe-t-il?
Et là on doit décrire avec des codes de simulation NCORE, donc qui donnent des interactions. On va en fait simuler l'assemblage des satellites entre eux.
L'accrétion des petits grains entre eux.
Voilà, on simule l'accrétion des petits grains entre eux. Ensuite, on simule le mouvement des petits grains autour de Saturne. Et ensuite, en plus, on simule l'interaction gravitationnelle avec les anneaux. Donc, à la fin, c'est quand même chose d'un peu compliqué.
D'accord, mais c'est quand même un peu magique. À la fin, sur votre ordinateur, est-ce que vous avez vu ce que vous observez avec Cassini?
Et en fait, à la fin, je ne sais pas si c'est magique, mais c'est sûr que c'était en tout cas très joli. On a vu, après de très nombreux essais, que dans certains cas, on arrivait effectivement à obtenir les bonnes masses et les bonnes positions pour les satellites de Saturne, et qu'on arrivait à reproduire avec succès Pandore, Prométhée, Janus, Épiméthée, Atlas, quoi. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que on reproduit jamais vraiment. Je peux pas vous dire dans la simulation, oh regardez, c'est Atlas qui sort et là c'est Épiméthée. En fait, ce qu'on a, c'est une ressemblance statistique. Alors exactement, sans entrer trop dans les détails, mais l'idée c'est la suivante. C'est que quand vous regardez les satellites de Saturne, vous apercevez, et ça c'est vraiment une caractéristique du système saturnien, vous apercevez qu'ils ne sont pas du tout disposés n'importe comment autour de Saturne. On s'aperçoit que les satellites les plus gros sont les plus loin, et les satellites les plus petits sont les plus proches. C'est très caractéristique.
C'est une répartition caractéristique des anneaux de Saturne.
Des satellites de Saturne.
Des satellites de Saturne,
voilà.
D'accord.
C'est qu'en fait, on s'aperçoit que les satellites, quand un satellite est plus gros, il est toujours plus loin. Quand un satellite est plus petit, il est toujours plus proche.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment très très spécifique. Donc cette répartition très étrange des masses en fonction des distances, eh bien en fait, c'est ça qu'on voulait reproduire. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on a reproduit avec succès. On a montré que ce mécanisme de formation était capable de reproduire avec succès cette répartition. Et donc, ce qui nous fait à la fin dire que ça marche. Explique le jeune âge. Ce qui explique, donc en fait, ils ont été formés il y a moins de 10 millions d'années, premièrement. Deuxièmement, ce qui explique le fait... par là même, ça vous explique le fait qu'il y a peu de cratères, parce que comme ils sont jeunes, il n'y a pas eu beaucoup de cratérisation. Ce qui vous explique aussi les faibles densités. Alors ça, pourquoi? Parce que dans ce modèle, les satellites se forment, ce sont des agrégats gravitationnels de glace. Les agrégats gravitationnels sont extrêmement poreux en général. C'est quelque chose qu'on connaît avec les satellites, c'est quelque chose qui est assez bien connu. C'est en fait, il y a beaucoup beaucoup de vide. Et peut-être que 40 ou 50% du volume à l'intérieur de ces satellites, en réalité, c'est du vide.
D'accord.
Et cette grande porosité fait qu'en moyenne, ces objets sont peu denses, même s'ils sont faits de glace.
Et ça, c'est Cassini qui a observé la faible densité des satellites.
Donc, c'était soupçonné, parce que la chose, c'est que pour avoir la densité, la densité, c'est quoi? C'est la masse divisée par le volume. Alors, et c'est deux choses qui sont difficiles à mesurer, en fait. Alors, la masse, on en avait une idée très indirectement en regardant les anneaux de Saturne. C'est une manière un peu spéciale de peser les satellites. On ne peut pas peser directement un petit satellite. Ce qu'on fait, c'est qu'on sait que les satellites de Saturne perturbent les anneaux en déclenchant des vagues dans les anneaux. On regarde la forme de ces vagues et on en déduit la masse. si la vague est très importante, très intense, c'est-à-dire que le satellite a une grosse masse. Si une petite vague, le satellite a une faible masse. Donc ça, ça vous donne la masse. Après, il vous faut le volume. Et ça, le volume, le problème, c'est qu'il faut avoir un modèle en tridimensionnel de l'objet. Parce que ce ne sont pas des objets sphériques. Vous ne pouvez pas dire, oh, bah, tiens, j'ai l'impression que c'est une boule avec tel rayon. Non, ce sont des objets avec une forme très caractéristique. Et ça, c'est vraiment Cassini qui nous a donné, avec ses multiples observations sous tous les angles, des formes tridimensionnelles assez précises. Voilà.
D'accord.
Et donc, c'est vraiment Cassini qui nous a montré que vraiment les densités sont très faibles. Même si je vous avoue qu'on le soupçonnait avec Voyager. Voilà, on le soupçonnait.
Déjà à la fin, voilà. Au début des années 80. Voilà. C'est un véritable casse-tête et plein d'ingrédients pour cette recette. Du coup, une question évidemment qui vient, c'est est-ce qu'on imagine que d'autres satellites vont se former
alors,
dans cet anneau
alors ça, c'est lointain. Alors ça, c'est une des prédictions du modèle. Mais heureusement pour moi, je ne vivrai pas assez vieux pour voir si cette prédiction se réalise ou pas, ou si j'ai tort. Oui, parce qu'en fait, il y a un mécanisme assez étonnant qui fait que... En fait, ce n'est pas une formation en continu de satellites. Ce sont des générations de satellites qui se forment.
Dû à quoi ?
Et on est peut-être à la millième génération. Alors, le mécanisme est le suivant. C'est que les anneaux s'étalent. Je peux dire pondent des petits satellites. Les petits satellites s'éloignent. Mais après, ce qui se passe, c'est que les satellites se rencontrent entre eux et grossissent.
Donc s'agrègent
et voilà, ils s'agrègent, ils se coalescent et grossissent. Et là, les lois de la physique vous disent que plus un satellite est gros, plus il va interagir gravitationnellement avec les anneaux. Mmh. Et une des conséquences de cette interaction gravitationnelle, c'est d'empêcher les anneaux de s'étaler. Il y a un moment où quand un satellite devient très massif,
il retient
les anneaux.
Ah,
en fait, d'une certaine manière, c'est comme si l'anneau s'appuyait
sur
le satellite. Mais ce n'est que temporaire, en fait. Alors... À l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est la situation actuelle des anneaux de Saturne. À l'heure actuelle, les anneaux de Saturne sont appuyés à l'extérieur sur le satellite Janus. Le bord externe des anneaux est verrouillé.
Sur un satellite, sur Janus en particulier.
Enfin, en couple avec Épiméthée, sur une paire de satellites Janus et Épiméthée.
D'accord.
Au moment où je vous parle, les anneaux de Saturne ne s'étalent pas, ou très très peu. Parce qu'ils sont verrouillés par le couple Janus et Épiméthée, qui sont des gros satellites. Mais on sait très bien que c'est que temporaire, parce que Janus et Épiméthée, après, ils vont partir.
Alors, temporaire, quelle échelle de temps ?
10 millions d'années, à peu près. D'accord. Entre 1 et 10 millions d'années, voilà.
D'accord.
Après, quand Janus et Épiméthée vont s'éloigner, eh bien, les anneaux vont
s'étaler
à nouveau. C'est comme un barrage où vous ouvrez les vannes. Ah, oui. Refaire une génération de satellites, et à nouveau, rebelote. Les satellites vont se rencontrer, sécréter, faire des plus gros satellites, et vont reverrouiller à nouveau les anneaux. Et là, vous stoppez le mécanisme. Donc comme ça, vous créez des bourrasques de satellites, des générations de satellites.
Ah, c'est intéressant.
Voilà.
Et est-ce que du coup, on a parlé de ces petits satellites, oui. Prométhée, Épiméthée. Est-ce qu'on imagine que ça peut être le même mécanisme pour des satellites plus gros, comme Titan par exemple, qui est le plus gros satellite autour de Saturne ?
Alors, Titan, personne n'y croit sérieusement, parce que Titan est tellement
grosse
fabuleusement
masse.
Gros. Faut bien voir que Titan, c'est un satellite qui fait 2500 km de rayon. Il est plus gros que la planète Mercure.
Oui.
C'est vraiment un truc énorme.
C'est
et
une
pour vous
planète,
donner une
quoi.
Idée, on connaît pas la masse des anneaux de Saturne. C'est d'ailleurs un grand problème. Mais elle est estimée c'est à peu près la masse d'un satellite de 200 km, à peu près. Si on rassemblait tous les anneaux de Saturne en un seul objet, ce serait un objet de 200 km.
Oui, donc on en est loin.
Voilà. Alors là, Titan, eh bien, si je prends la masse de Titan, ce serait à peu près entre 10 000 ou 100 000 fois plus massif que ce qu'on pense
que
ce à côté de Saturne. Voilà. Donc Titan, vraiment, on pense que c'est trop gros. Puis en plus, la composition chimique de Titan
est différente.
Titan est très riche en hydrocarbures, bon, très riche en glace, riche en silicate, bon, voilà. Donc Titan, je vous avouerai que ça paraît assez improbable. Mais bon.
On a des idées, du coup, de l'origine de sa formation,
de Titan ? Ah, alors, l'origine de Titan, oui, alors on a des idées. Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste de la question, mais globalement, a priori, il semblerait que Titan se soit formé dans une sous-nébuleuse, dans la sous-nébuleuse qui entourait Saturne au moment de sa formation.
D'accord.
Donc, Titan se serait formé, en fait, conjointement à Saturne. Donc, quand la planète se forme dans le disque protoplanétaire, en fait, elle va créer une sorte de mini-disque autour d'elle. Mm-hmm. Donc, elle reproduit en fait le processus de formation planétaire
autour du Soleil,
autour du Soleil, mais à plus petite échelle. Et ce mini-disque est alimenté à l'extérieur par le gros disque protoplanétaire. Donc, ce serait le matériau venant du gros disque qui aurait coulé vers Saturne, se serait retrouvé dans le mini-disque autour de Saturne, et là, le matériau se serait assemblé pour former Titan.
D'accord.
Alors bon, voilà, on pourra entrer dans les détails, mais globalement, c'est très grossièrement comme ça que ce serait formé Titan.
Une
voilà.
recette différente, d'accord.
Par contre, je me permets juste de finir, la question se pose, et on est en train de travailler là-dessus, pour les autres satellites. Mimas, Encelade.
D'accord, donc les satellites moyens, gros. Ouais,
on les appelle les satellites de glace de taille moyenne. En anglais, c'est les mid-size icy moons.
Encelade est un cas particulier. On avait vu des geysers.
Encelade est très particulier, des geysers sur surface. Mais tous ces satellites, on se pose la question si le même processus n'aurait pas pu donner naissance à ces satellites. Alors, ça nécessite de mettre beaucoup plus de masse dans l'anneau. En ce moment, les recherches portent là-dessus, quoi. Mais bon, j'ai pas encore les résultats, donc.
Rendez-vous dans quelques années.
Je peux pas vous donner de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles pour l'instant, voilà, quoi.
D'accord.